Nous vous proposons maintenant une interview du docteur Jacques Labesca.
Eh bien, bonjour, nous avons invité aujourd'hui Laurent Barra, bonjour.
Bonjour.
Alors, on l'a invité parce qu'il est expert en intelligence économique et il est co-auteur d'un livre, déjà qui nous a interpellé dans son titre, qui s'appelle « Globésité », et encore plus dans son sous-titre, « La grande désinformation de l'industrie agroalimentaire ». Alors, c'est quoi la globésité, Laurent Barra ?
Alors en fait, ce titre nous est venu, je dirais, par deux mots, global et obésité, bien évidemment, parce qu'on se rend compte que c'est un phénomène qui aujourd'hui n'épargne aucun pays, aucune civilisation, et qui a des conséquences très graves sur, je dirais, le devenir. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots entre l'obésité globale, l'obésité mondiale, donc on est venu sur globésité.
Ça veut dire que tout le monde se nourrit, quoi, en fait. Les entreprises se nourrissent sur le dos des gens qui mangent mal.
Ça peut se résumer à ça, tout à fait.
Parce que vous attaquez tout de suite. Alors, le livre n'est pas toujours facile à lire, c'est vrai, je dois le reconnaître, mais il est tellement fondé et scientifiquement prouvé qu'il en est très intéressant. Il y a beaucoup de références scientifiques et beaucoup de références d'articles. Alors, vous mettez l'ennemi numéro un, la malbouffe.
Alors, effectivement, c'est un sujet que j'ai abordé de manière naïve, donc sans aucun a priori. Et donc, il a fallu enquêter, rechercher, acquérir de l'information. Et donc, je dirais, toutes les notes et références sont nécessaires à la fois pour justifier toutes les allégations. Quand je cite une marque bien précise qui dit « Elle a corrompu des chercheurs pour falsifier des recherches », et bien, il faut que je puisse effectivement prouver ce que je dis. Donc c'était un travail intéressant de recherche, d'analyse pour comprendre un peu ce phénomène et comment, je dirais, il se répand.
Et alors vous nous dites, la malbouffe finalement c'était pas un mal, c'était un mal qui aurait pu être tout à fait évitable si on n'avait pas cherché à faire du business dessus, quoi, en fait.
Voilà, on est remonté aux origines. Alors le point central, c'était il y a 20 ans, l'OMS déclare l'obésité comme étant une épidémie. De manière naïve, je pensais une épidémie, c'est peste, c'est choléra, et jamais dans mon esprit, c'était l'obésité. Donc on a cherché, c'est comment on en est arrivé à ce stade-là, et depuis, qu'est-ce qui a été fait. Et donc en recherchant comment on en est arrivé là, on s'est aperçu qu'en fait, tout venait des industries de transformation, donc au 19e siècle, aux États-Unis, qui ont imposé un changement de production aux agriculteurs, aux éleveurs, pour leur dire, voilà, maintenant, il faut améliorer vos rendements, il faut améliorer votre production. Les petits troupeaux tranquilles, 50 têtes, ça n'existera plus. Et tout ceci donc, est né de cette volonté de complètement transformer le mode de production, je dirais, initial. Et par la suite, toute cette nourriture, évidemment, il faut la revendre. Et on rentre dans une chaîne de « je produis à bas coût ». Je peux faire donc des produits, vendre des produits peu chers, mais sans regarder à la qualité nutritionnelle.
Oui, alors c'est comme ça qu'on arrive aux fermes de 1000 vaches.
Alors là, c'est un très très gros problème, puisque ces méga fermes ou fermes-usines, il faut savoir que ce sont donc un phénomène majeur aux États-Unis. Quand on parle de fermes de 1000 vaches, de méga fermes, ce sont des fermes à plus de 100 000 têtes de bétail qui ne voient jamais le jour ni l'herbe, ou de plus de 2 millions de têtes de volaille. Et ça, c'est pour les plus petites. Et c'est, je dirais, une des origines du phénomène d'obésité. Les causes sont multiples, mais ça, c'est un des points sur lesquels on s'est penché. Et ce phénomène se répand en Europe et en France, avec la fameuse ferme des 1000 vaches dans le nord de la France, qui a été un sujet très polémique, avec des manifestations, des fermetures. Voilà, c'est un sujet assez complexe. Nous, on est encore, entre guillemets, petit, 1000 vaches, mais comparé à des élevages 30, 50 bovins, d'agriculture traditionnelle, on change déjà d'échelle. Et c'est, j'ai peur que ce soit les prémices d'une transformation plus profonde de nos modes de fabrication, de production agricole ou de détail, et qui ait les mêmes impacts à moyen terme que ce que l'on a pu voir dans certains pays comme les États-Unis.
Oui, c'est pour ça que vous commencez d'ailleurs par faire votre premier chapitre sur les États-Unis, et vous n'hésitez pas à écrire L'industrie agroalimentaire, je vous cite, en toute connaissance de cause, contribue à rendre malade la population mondiale. C'est grave comme accusation.
Oui, mais quand on analyse en fait tout ce qui se passe, et surtout que il y existe de nombreux chercheurs, de nombreux hommes politiques qui mettent le doigt sur ce problème et qui demandent aux industriels et aux lobbies de faire quelque chose. Et un peu de poudre aux yeux, rien n'est fait, les bénéfices continuent d'affluer. Quand je dis des hommes politiques, c'est pas le maire d'une petite commune qui ne voit plus de fruits et légumes depuis plusieurs années. Ça va être Michelle Obama, donc la femme de l'ancien président. Ça va être des sénateurs ou des chercheurs reconnus mondialement en termes de nutrition, ou des professeurs qui alertent l'opinion et les industriels. Mais en pure perte, chaque fois, je dirais, les lobbies reprennent la main sur ces sujets-là, contournent le problème, manipulent et, je dirais, emploient les différents mécanismes de la guerre de l'information. Et au final, rien n'est fait et les choses continuent comme avant.
Et alors vous nous dites que ce qui est valable pour les États-Unis maintenant devient largement valable en Europe et en France en particulier, notamment au niveau de deux ennemis que vous dénoncez, là aussi, qui sont dans l'assiette, le sucre et le sel, qui sont en quantité bien trop importante.
Oui, alors ça, on note principal. Enfin, j'ai plus de recul sur le sucre. Pourquoi le sucre soudainement a fait son apparition de manière beaucoup plus importante dans nos assiettes? Lorsqu'il y a de nombreuses années, on a fait remarquer aux industriels que leurs produits transformés ou plats préparés étaient beaucoup trop gras. Effectivement, ils ont retiré du gras, mais quand on enlève du gras, c'est pas bon, ça n'a pas de goût. Donc, pour rehausser le goût, ils ont ajouté du sucre. Donc, pour 50% de gras en moins, on a eu 100% de sucre en plus. Et ça, voilà. Et ce sucre en plus vient se stocker directement en graisse avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer par la suite. Donc, le sucre est vraiment un danger, surtout que lorsque l'on lit une étiquette, voir que le sucre a plus de 56 dénominations différentes. Moi, le premier, je serais peut-être encore aujourd'hui incapable de toutes les reconnaître. Donc, le sucre se cache partout, dans le plat, dans les sauces, dans les condiments, dans tout ce que l'on peut imaginer. Et ce sucre inutile, puisque déjà apporté par les aliments, avec une alimentation variée, sans chercher très loin, ce sucre ajouté est vraiment extrêmement dangereux. Le sel, bien évidemment, avec ses. Le sel comme le sucre, on en a besoin tous les jours, il en faut. Mais c'est toujours le problème de l'ajout inutile. Donc dans les plats, ben, pour rehausser les goûts, pour masquer certains mauvais goûts ou autres, voilà, tous les plats transformés ou préparés, on voit fleurir ici et là du moins 25% sel, moins ceci. C'est bien, mais c'est largement insuffisant. Tous les plats sont beaucoup trop salés, beaucoup trop sucrés. Et c'est un des principaux dangers. C'est invisible. Quand on mange, finalement, ça a bon goût, entre guillemets, et ça passe. Malheureusement, la qualité nutritionnelle n'est pas là, et c'est là que les problèmes commencent.
Ce sont des sucres en plus de plus en plus raffinés et qui appellent de
Oui.
plus en plus de sucre.
Alors, ce sont là où c'est pernicieux, ce sont des sucres de plus en plus faciles à produire, de moins en moins chers à produire, qui ont un pouvoir sucrant de plus en plus élevé. Et donc, en fait, c'est tout bénéfice pour l'industriel. Donc, en fait, il peut en rajouter partout pour un coût minime et pour un rapport au final gustatif, de son point de vue, très bien. Donc, c'est effectivement le sucre est un bon ennemi. Je fais juste une parenthèse sur le lobby du sucre, donc très très puissant aux États-Unis, et je reviens sur leur page, leur page française où ils sont effectivement bien bien présents. Et bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec nombre de leurs allégations. Si quand ils disent que le sucre est bon, c'est vrai, il en faut, comme je l'ai dit, pour la santé, mais où ils mettent en avant plusieurs rapports indiquant que rien ne pouvait prouver que le sucre était à l'origine de telle ou telle maladie ou de phénomènes comme ça. J'ai des études qui vont dire exactement le contraire. Donc, le lobby du sucre, je dirais, il faut faire attention aux informations que l'on peut trouver, surtout quand on sait qu'il y a eu, il y a quelques années, un accord cadre avec l'éducation nationale et le lobby sucrier pour éduquer les enfants sur des thématiques en lien avec le changement de nos habitudes alimentaires. Donc c'est un peu, c'est dangereux, c'est un jeu très dangereux et c'est, très clairement le lobby du sucre n'est pas neutre dans cette affaire.
Et alors vous dites dans votre livre, et vous le démontrez, que les sommes allouées à la publicité sont bien plus importantes que les sommes allouées à l'éducation.
C'est sans commune mesure. Le pouvoir des publicités, enfin, surtout qu'elles sont de plus en plus ciblées sur des heures, sur des chaînes ou sur des types de populations, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes produits pour des populations hispaniques, des populations noires, des populations blanches. C'est vraiment très puissant, c'est très pensé. Et quand on a, c'était il y a 2 ans, je crois, plus de 15 milliards de dollars dépensés en publicité pour les 25 premières marques, juste pour les États-Unis, on se dit qu'effectivement, il y a un pouvoir, je dirais, comment y échapper ? C'est impossible. En France, on n'en est bien évidemment pas encore à ce niveau-là. La réglementation est compliquée. Il y a eu des tentatives pour effectivement, je dirais, réglementer ces publicités à destination des jeunes, en tout cas en tout ce qui concerne l'alimentation. On voit fleurir en bas des publicités, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes. Qui va consulter les sites ? Qui mange les 5 fruits et légumes suite à avoir une publicité pour un hamburger, je dirais, appétissant ?
Justement, c'est un de vos ennemis, le burger, hein, parce que vous nous dites, à la place du jambon beurre, maintenant c'est le burger, et il y a presque un sandwich sur deux qui est un burger. Et le burger, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux.
Non, alors, c'est comme pour tout. Si j'en mange un dans le mois parce que j'ai envie de me faire plaisir, ça ne fera aucun mal. C'est l'abus continu de cette malbouffe, on ne peut pas la citer autrement, qui est nocive. On parlait de burger et une des marques les plus célèbres mondialement en termes de hamburger a quand même ses deux plus grands restaurants en France, Euro Disney et Paris.
Champs-Élysées, oui, qui vient d'être fait, oui.
Voilà, donc c'est un gros problème. Donc insidieusement, on constate que nos habitudes alimentaires, à nous Français, changent. Le jambon beurre, petit à petit, se fait détrôner par ce type de plat et qui, nutritionnellement, n'apporte pas du tout les mêmes choses. Je ne dis pas que le jambon beurre à manger tous les jours est bon aussi. Mais néanmoins, nos habitudes changent ou on nous impose tout doucement ce changement en nous proposant peut-être plus ce type de plat-là que nos plats plus traditionnels.
Et alors vous dites, la perversion se va plus loin encore, parce que les mêmes entreprises qui nous font mal bouffer, je vais employer ce mot moche, mais bon, qui dit bien ce qu'il veut dire, sont aussi maintenant propriétaires d'entreprises qui nous proposent des régimes pour justement combler ce défaut de malbouffe. C'est quand même une certaine perversion, là.
Tout à fait, c'est assez curieux de le noter quand on a cherché, mais finalement, des produits de régime, puisque le problème est l'obésité, donc si je m'assieds, ben mes problèmes vont s'en aller avec. Et ben quand on regarde que les grandes marques, de grandes industries agroalimentaires sont aussi les propriétaires de produits de régime qui sont très répandus à travers le monde, ça prête à sourire. C'est que d'un côté, je vous vends des produits qui sont mauvais pour la santé, mais de l'autre côté, je vous vends aussi des produits qui pourraient vous aider à aller mieux. C'est assez pervers, effectivement.
C'est
toujours le même qui pense à la caisse.
C'est en ce sens-là, oui, vous parlez de la caisse, hein, je crois que c'est malheureusement le moteur général. C'est en ce sens-là que vous citez Pierre Rabhi, une belle phrase de Pierre Rabhi, qui dit « Quand on se met à table, il vaut mieux se souhaiter bonne chance que bon appétit. »
Tout à fait, ça me fait penser à un livre, je ne me rappelle plus l'auteur, mais c'est dans le livre, un industriel, enfin donc un cadre d'une industrie agroalimentaire, qui a publié un livre en disant « je ne mangerai pas de cela ». En gros, il ne mangerait pas la nourriture que produit sa propre usine. Ça veut tout dire. Quand on voit, il y a de nombreux reportages aussi qui relatent maintenant de plus en plus fréquemment ce genre de choses. Quand on voit les compositions des plats, je ne dirais pas que c'est à frémir, mais c'est inquiétant. Enfin, où va-t-on ? Il y a de plus en plus de produits non naturels qui sont détournés de leur but premier dans les plats. Ça devient très compliqué de pouvoir, à moins de pouvoir acheter, bien évidemment, ces fruits et légumes soi-même ou ça vient des poissons, ça devient très compliqué de pouvoir manger sainement.
Eh bien, je crois qu'on va terminer là-dessus en disant peut-être la phrase opposée d'Hippocrate, qui disait autrefois, en 400 avant Jésus-Christ, ton premier médicament sera ton assiette. Je pense qu'on pourrait dire maintenant, ton premier poison sera ton assiette.
Il faut effectivement se méfier de ce qu'on met dedans.
Eh bien, merci beaucoup Laurent Barra, c'était très intéressant et je reconseille vraiment votre livre qui s'appelle Globésité, qui est apparu aux éditions VA Éditions et qui est très intéressant parce que très fondé et qui permet vraiment d'argumenter parce que toutes vos affirmations sont fondées et sont démontrées dans les textes. Merci beaucoup et à bientôt.